κοκκινέλι η αγάπη μου. Το γκρσίλωμα χορεύει, κούνησέ μου το λιγάκι το κορμάκι σου. Χτύπησέ μου τίκι τίκι τα κατώ τα κουνάκι σου. Θα σου πάρω λατέρνα, τη γάμπα σου σπαστά, κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Radio Canu, la plus grecque des radios. Vous venez d'entendre Yanis Parios avec Liralia, les groupes de rock Tripes avec Taxidia la Psyche, Imam Baildi avec un featuring avec BNC et MC Yinka sur Baila Tifteteli, et enfin Khalis Alexiou avec Dimitrou Lamou.
Grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est au Canus Info et on est le 3 juin et non pas le 6.
Au programme à l'international, on commencera par faire le point sur la répression en Kanaky ainsi que le point sur la situation à Gaza en Palestine.
Au national, on parlera des manifestations qui ont lieu à Paris et à Lyon ce week-end. On parlera aussi de l'appel à un week-end contre l'A69 entre Toulouse et Castres. On fera un point sur la grève du médico-social du 4 juin et on terminera sur le cas de répression contre un délégué syndical de la CGT.
Et au local, on parlera de la mobilisation contre les PFAS, les polluants éternels, avec une interview de 4 camarades.
Mais tout de suite, les brèves.
Et oui, donc on commence avec les chiffres des expulsions qui viennent de tomber et qui sont accablants. Donc les chiffres des expulsions liées au JO 2024. Donc c'est un collectif d'associations qui a sorti aujourd'hui un rapport où il dénonce un nettoyage social, traduit notamment par des expulsions massives. Donc les chiffres, 5224 personnes ont été expulsées de l'Île-de-France vers d'autres régions en passant par des sas de desserrement, nouveau dispositif créé tout spécialement pour l'occasion, et 12545 personnes précaires expulsées de leur lieu de vie, squat, bidonville, campement, mais aussi de leur logement voué à être démoli, conséquence directe ou indirecte justifiant une accélération des expulsions. Et donc pour en savoir plus, on fera un dossier spécial sur les JO lors du Canus Info en mixité choisie.
Et on enchaîne avec un point sur la répression que subit Anas Kazib, puisque ce jeudi se tenait à Paris son procès. Donc Anas Kazib, c'est un militant cheminot ouvrier, il est porte-parole de Révolution Permanente et il est également à Sudrail, il est issu de l'immigration. Il a été donc condamné pour organisation de manifestations non déclarées. Alors dans le code pénal, ça peut quand même aller jusqu'à un enfer, mais 15 000 euros d'amende. Ce qu'on lui reproche, donc, c'est sa prise de parole sauvage en février 2022 contre l'extrême droite après l'annulation de sa conférence qui devait se tenir à l'université La Sorbonne. Annulation obtenue après une campagne bien raciste menée entre autres par les natifs, c'est-à-dire génération identitaire. Pour cette prise de parole sauvage, qui a provoqué un rassemblement de soutien, mais aussi contre l'extrême droite. Il a été condamné jeudi donc à 1500 euros dans le cadre d'un procès à charge où juge et parquet ont tout fait pour nier le contexte de campagne raciste qu'il avait subi et user d'un paternalisme, lui aussi bien raciste et méprisant envers Anas Kazib, qui, rappelons-le, a également été convoqué il y a quelques semaines pour apologie de terrorisme à cause de son soutien conditionnel à la Palestine. Alors on le dit ici haut et fort, solidarité avec Anas Kazib.
Et on continue tout de suite avec Édouard Baird, accusé d'agression sexuelle. Ce week-end, son spectacle a été annulé à Lyon et pour cause, les accusations d'agression sexuelle et d'harcèlement sexuel se multiplient. 6 femmes l'accusent, s'ajouteront à la longue liste des accusations du MeToo cinéma. Les 6 femmes, toutes âgées d'une vingtaine d'années au moment des agressions, déclarent l'avoir croisé dans un contexte professionnel, faisant donc office d'abus de pouvoir. Elles n'ont pas porté plainte pour le moment et quant à lui, sans aucune surprise, il déclare ne pas se reconnaître dans ses accusations.
Une dernière brève, on voulait vous signaler que Claudia Sheinbaum, candidate de gauche au Mexique, devient la première femme présidente du Mexique. C'était l'ère mère de Mexico qui a été élue donc avec une victoire écrasante au premier tour de 60%.
Et on passe tout de suite à l'international.
International.
Avec un premier point donc sur la répression en Kanaky.
En relançant la question de la lutte du peuple kanak pour son autodétermination, la réforme du dégel du corps électoral prévue par Macron a relancé les luttes anticoloniales. La réforme qui prévoyait d'ajouter 15% d'électeurs, d'électrices sous condition d'être nés sur l'île ou bien d'avoir au moins 10 ans de résidence, ce qui permettrait de garantir la victoire du non en cas de vote pour l'indépendance. À l'appel de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, les militantes indépendantistes ont multiplié les manifs, les blocages contre la tentative de passage en force de cette réforme. La résistance est ensuite radicalisée avec 2 semaines consécutives d'émeutes, menées notamment par la jeunesse kanak, accompagnée de pillages des grandes surfaces et d'affrontements très violents avec la police et avec les milices de colons. Cette réforme ne fait en réalité que confirmer la logique de colonie de peuplement engagée par l'État français depuis 170 ans, mettant peu à peu donc le peuple autochtone en minorité dans son propre pays. En contradiction avec les promesses d'autodétermination liées aux accords de Nouméa signés en 1998, l'État français cherche à couper l'herbe sous le pied des organisations indépendantistes, notamment du FLN-KS. L'insurrection donc, qui soulève l'île depuis quelques semaines, a en réalité fait suite à une mobilisation qui avait massivement débuté dès le mois d'avril dans la province Nord et dans les îles Loyauté, largement contrôlées par les indépendantistes, où une partie importante de la population kanak est concentrée, eh bien il y avait déjà des barrages filtrants qui bloquaient des axes et des quartiers entiers. Sur les barrages, on trouvait des militants indépendantistes, certes, mais aussi des jeunes kanaks, des jeunes wallisiens, des jeunes futuniens. L'auto-organisation qui se met alors en place, renforcée par des liens de solidarité communautaire déjà très forts, permet de se protéger notamment contre les attaques des milices de colons largement armées. Mais c'est sans doute dans la banlieue populaire de Nouméa que les affrontements ont été les plus violents, parce que c'est aussi là où les inégalités, le racisme et la précarité sont les plus forts. Rappelons qu'en accord avec l'inégalité entretenue par le système colonial, le chômage touche 15% des Kanaks contre 8% des non-Kanaks en 2022. Les Kanaks sont largement aussi surreprésentés dans les populations carcérales et les logiques de ségrégation spatiale sont puissantes et directement héritées de la mise en place des réserves indigènes ou des villages de concessionnaires pénaux. L'économie de l'archipel est aussi largement porte le stigmate de l'économie coloniale, structurée par un capitalisme impérialiste avec une exploitation du nickel toujours très structurante dans l'île au profit des multinationales étrangères, mais aussi structurée par la concentration des monopoles aux mains des grandes familles de colons à l'image du groupe Bernard Ayo. Depuis décembre 2021 et le maintien du troisième référendum d'autodétermination malgré l'appel à boycott des organisations indépendantistes, eh bien Macron attise les colères et maintient son cap colonial. Face à la révolte, il s'est déplacé en Kanaky. Pourquoi faire ? Pour mieux justifier la répression, en affirmant par exemple, je cite, que l'État français reprendra tous les quartiers, cela prendra le temps que ça prendra. Joignant le geste à la parole, il a décrété l'état d'urgence, organisé le déploiement de l'armée, du GIGN, du RAID et appliqué l'interdiction des réseaux sociaux comme TikTok. Bref, l'État français a ressorti tout son arsenal de répression coloniale de la rue aux tribunaux et n'a pas à hésiter à s'appuyer sur les milices locales qui ont tué au moins une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ce sont 725 personnes qui ont été interpellées depuis le début de la révolte, d'après le bilan du Haut Commissariat de la République au 1er juin. Au tribunal de Nouméa, par exemple, une audience de comparution immédiate se tient chaque jour. La justice expéditive bat son plein. À l'image, par exemple, des directives de Dupont-Moretti, les peines sont sévères. Mercredi 29 mai, par exemple, deux jeunes indépendantistes kanaks de 21 et 24 ans ont été condamnés à 6 mois de prison avec mandat de dépôt pour avoir jeté respectivement une bouteille et un caillou en direction des blindés de la gendarmerie. Deux jours plus tôt, c'était un homme kanak de 38 ans qui est parti en prison pour 2 ans. Aujourd'hui, malgré la levée de l'état d'urgence, la répression, elle, continue, comme en attestent aussi les nombreux témoignages de violences policières qui nous parviennent. On vous tiendra au courant de la suite de cette révolte. D'ici là, force au peuple kanak.
Et on va se mettre une petite musique qui s'appelle « Leve Palestina » de Kofia.
Leve Palestina, o grossa sionismen.
Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve. Vive Palestina, o grossa sionismen. Vive Palestina, o grossa sionismen.
Och vi har rullat jorden.
Och vi har rullat jorden.
Och vi har skördat vetet.
Och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna.
Och vi har plockat citronerna.
Och pressat oliverna.
Och pressat oliverna.
Och
hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och grossa sionismen. Leve Palestina och grossa sionismen.
Och vi har kastat stenar på.
Och vi har kastat stenar på.
Soldater och poliser.
Soldater och poliser.
Och vi har skjutit raketer.
Och vi har skjutit raketer.
Mot våra fiender.
Mot våra fiender.
Och hela världen känner till vår kamp.
Och hela världen känner.
Palestina, grossa sionisme, vive Palestina, grossa sionisme, vive Palestina, grossa sionisme, vive Palestina, grossa sionisme.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, le Canu Info du 3 juin, il est 19h16 et on reste à l'international avec le cessez-le-feu palestinien.
Après le massacre de Rafah perpétré par Tsahal le 26 mai dernier, qui ont frappé donc les camps de Tel al-Sultan et d'Al Mawazi, les forces israéliennes ont progressé par voie de terre et ont pénétré dans la ville-refuge de Rafah. Israël poursuit son œuvre génocidaire. Les bombardements intenses ont continué, notamment dans les quartiers de l'ouest de Rafah, ainsi que dans le camp de Jabalia. Chaque jour, les bombardements et l'offensive israélienne tuent des dizaines de personnes, malgré les mobilisations qui ont eu lieu à l'international et en France en particulier. Depuis la vaste offensive visant à encercler la ville lancée début mai, les troupes israéliennes sont donc entrées dans Rafah. Tandis que les troupes stationnées le long de la frontière, elles, renforcent le point de passage avec l'Égypte, les combats font rage au centre de Rafah, occupé aujourd'hui par des colonnes de blindés. Tsahal déploie également massivement son aviation pour bombarder des quartiers entiers de la ville et mitrailler depuis les airs la population gazaoui. Comme l'a établi la CNN, une partie des munitions employées dans le massacre des camps sont de facture états-unienne et sont produites par l'entreprise Boeing dans son usine de Californie. La complicité est donc explicite. Les forces d'occupation ont aussi détruit le dernier hôpital en service à Rafah ainsi que la mosquée au centre de la ville. D'après l'ONU, ce sont près d'un million de Palestiniens qui ont fui l'enclave depuis le début donc de ces opérations terrestres aux alentours de Rafah. Il y a trois semaines, nombreux habitants et habitantes avaient quitté la ville en présageant la catastrophe humanitaire qui a débuté. Israël, de plus en plus discrédité à l'international, semble ne suivre plus qu'une seule stratégie, l'effacement du peuple palestinien à tout prix, continuant à nous mobiliser dans la rue pour éviter cela.
Et on passe maintenant au national.
National. Avec un premier sujet donc sur les manifestations de ce week-end à Paris et à Lyon.
Et oui, donc c'était un week-end chargé en manifestations. D'abord, vendredi soir à Paris, une quatrième soirée consécutive de manifestations en soutien aux Palestiniens et Palestiniennes, violemment réprimées. Le lendemain, 1er juin, se tenait ensuite une manifestation contre le fascisme et le colonialisme, notamment pour rendre hommage à Clément, jeune militant tué par un néo-nazi il y a 11 ans, vers laquelle a convergé les appels à manifestations en soutien au peuple kanaki et en soutien à la Palestine. À Lyon, en début d'après-midi, donc le samedi, une manifestation contre l'Europe forteresse et pour un monde sans frontières, suivie également d'une manifestation en soutien à la Palestine. Mais on lit tout de suite le communiqué du collectif Anticra.
Contre les politiques européennes de gestion de la migration, l'enfermement, les frontières, les politiques néocoloniales et le racisme systémique. À travers toute l'Europe, les États cherchent à renforcer leurs frontières. Cette logique répond aux intérêts impérialistes et néocoloniaux des pays européens. Concrètement, la politique raciste et xénophobe menée à l'échelle européenne se traduit par des législations et des pratiques mortifères. Systématisation à l'échelle européenne des refoulements, déploiement de dispositifs anti-migrants le long des frontières et littoraux, murs et clôtures, canons sonores, barrages flottants, barbelés à lame de rasoir, conditionnement de l'aide au développement à la lutte contre l'immigration, criminalisation du sauvetage civil. Cette militarisation des frontières est coordonnée par l'agence européenne Frontex, dont le budget de près d'un milliard d'euros en fait l'agence européenne la mieux dotée. Les objectifs de Frontex sont clairs. Rendre inaccessible l'accès à l'Europe pour celles qui n'auraient pas les bons papiers. Les voies de migration sont toujours plus surveillées, plus violentes, plus dangereuses et plus meurtrières. L'Europe et ses États membres assassinent en toute impunité. C'est plusieurs milliers de personnes qui sont tuées chaque année au nom de la protection des frontières, dans l'indifférence quasi générale. En plus de faire de l'Europe une forteresse infranchissable, les États membres de l'Union européenne votent des lois répressives et néocoloniales qui rendent la vie impossible aux personnes exilées, racisées et ou qui n'ont pas les bons papiers sur leur territoire.
Les centres de rétention administrative, les CRA, sont un des éléments clés de ce système raciste et servent à enfermer et réprimer les personnes qui n'ont pas les bons papiers. En 2022, le nombre de places d'enfermement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes est passé de 140 à 280 avec l'ouverture d'un deuxième CRA à Lyon. En France, la loi Darmanin, votée en 2024, va intensifier la répression contre les personnes immigrées sans papier, en facilitant les arrestations, l'enfermement et les expulsions. Cette politique raciste ne sera pas applicable sans plus de moyens pour enfermer et remplir les objectifs répressifs de l'État. Darmanin a annoncé la construction d'une dizaine de CRA dans les années à venir, faisant passer les capacités d'enfermement de 1500 à 3000 places. Il y a déjà 25 CRA en France et dans les territoires d'outre-mer qui enferment plus de 50 000 personnes par an, dont 3349 enfants en 2023.
À l'intérieur des centres de rétention et depuis qu'ils existent, les prisonniers et les prisonnières luttent pour leur liberté, pour faire entendre leur voix en dehors des murs. De l'extérieur, les luttes et les solidarités se construisent pour enrayer ces politiques de terreur. Continuons de soutenir toutes les personnes enfermées et de lutter contre les politiques migratoires meurtrières, nationales et européennes.
Et on reste au national avec un week-end de mobilisation contre l'A69 à l'appel des soulèvements de la terre.
Oui, le 7, 8, 9 juin donc à venir, à partir de vendredi, il y a un appel international à rejoindre donc un camp où il va se dérouler tout un tas de belles choses dont je vais vous donner un peu les détails. Mais juste avant, je vous lis donc ce communiqué d'appel des soulèvements de la terre, hein, qui est très court, pour ce fameux week-end. Donc, en avril et octobre 2023, nous avons été des milliers à nous rassembler pour dénoncer et tenter de mettre un terme à l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, dénonçant un projet hérité du siècle passé et triplement néfaste, inutile, écocidaire et antisocial. Alors, même si l'autoroute avance, nous aussi. En 2023 et 2024, la résistance a été portée au niveau national et même international, sans pour autant faire fléchir les décideurs et décideuses politiques, épaulés de leurs amis concessionnaires, Astoka, NGE et de l'appareil judiciaire et policier. La détermination à défendre les terres menacées d'artificialisation, à lutter contre une infrastructure antisociale et à promouvoir des alternatives de résilience aux enjeux climatiques s'est illustrée de multiples manières. Recours juridiques, occupation dans les arbres et au sol, débats à l'Assemblée nationale, rassemblements, venues d'activistes et artistes connus de tous et toutes, désarmement d'engins de chantier, grève de la faim et de la soif, projet d'aménagement alternatif, une autre voie. Des actions de solidarité dirigées contre les acteurs et actrices du projet partout en France ont renforcé notre détermination et des centaines de personnes ont convergé pour renforcer les occupations sur place. Les multiples lieux d'occupation sur le trajet appellent à être rejoints dès maintenant. L'État tente vainement d'enterrer la contestation via un puissant appareil répressif, mais le Sud-Tarn résiste. Contre l'autoroute et toute sa chaîne de production, des gravières en Ariège aux centrales, à Bitume, en Haute-Garonne et Tarn, convergeant massivement dans le Sud-Ouest pour une mobilisation populaire de grande ampleur, bloquons les chantiers de la 69 et reprenons les terres accaparées par Atosca NGE. Voilà, c'est clair, hein. Et donc l'appel commence à partir de ce vendredi 7 juin. Alors le lieu sera entre Castres et Toulouse et dévoilé au dernier moment. Il y a un canal info Telegram @stopa69, hein, sur lequel il y aura toutes les informations. Et puis si vous voulez des détails, vous pouvez aller sur le site des soulèvements de la terre. En tout cas, ça commence le vendredi midi, il y aura des choses un peu toute la journée. La grosse journée d'action, c'est le samedi 8 juin, avec un départ à 13h en manifaction. Ça se terminera dimanche plutôt par des assemblées et des choses un peu plus calmes. Voilà, le pic du week-end est donc le samedi 8 juin. Venez-y, nombreux et nombreuses.
Et toujours au national, on continue avec la grève du médico-social et du social le 4 juin.
Oui, en effet, donc ce mardi prochain, demain, 4 juin, différents collectifs et syndicats du médico-social en appellent à la grève pour les salaires, les emplois, les conditions de prise en charge. En effet, beaucoup travaillent pour à peine plus d'un SMIC. Certains et certaines travaillent les soirées, les week-ends, face à des possibilités d'accompagnement réduites de jour en jour liées au vote de précédentes lois, notamment celle d'Armanin ou encore France Travail, pour ne citer que quelques-unes, et souvent en sous-effectif. Donc le 4 juin sonne la dernière date de négociation autour d'une nouvelle convention collective unique et de fait a été suivie et fait suite plutôt à d'autres journées de mobilisation, notamment celle du 4 avril dernier. Donc la signature d'une convention collective unique est donc au cœur des préoccupations parce qu'elle est déterminante pour l'avenir des conditions de travail et des conditions d'accueil. L'objectif général affiché, c'est la fusion de conventions collectives, notamment la 66 qui, elle, est appliquée au champ du social et du médico-social, et la convention 51, plutôt à destination des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de cure. Mais tandis que les salariés demandent une fusion qui permettrait une amélioration par l'intégration des avantages des deux conventions, ils et elles craignent plutôt une fusion à la baisse et antisociale. Le risque, écrasement des échelles de rémunération, faible prise en compte du contexte d'intervention, suppression de RTT sans compensation salariale, revalorisation salariale liée à l'ancienneté seulement à l'appréciation des cadres et tant d'autres. Donc certaines formations syndicales ont fait valoir leur droit d'opposition et refusent de signer cet accord tant que le Ségur, soit l'augmentation de 183 euros, déjà largement insuffisante, n'est pas appliquée pour toutes et tous. Donc en effet, certaines professions travaillant dans le médico-social, comme les veilleurs de nuit, les secrétaires, les agents et agentes d'entretien, n'ont pas bénéficié du Ségur, alors que c'est souvent les professions les plus précaires, et alors même que les soignants et soignantes et les travailleuses sociales ont eux et elles dû l'arracher. Donc ces conditions de travail se répercutent sur les conditions d'accueil. Et c'est pour ça que le 4 juin, un rassemblement se tiendra à Paris à 9h, puis suivi d'un cortège à partir de 13h30 avec d'autres manifestations locales. Voilà.
Et toujours national, on passe à la répression contre un délégué syndical de la CGT.
Oui, encore une fois, la violence patronale s'abat sur un syndicaliste. Alors, il s'appelle Christian Porta. Il est ouvrier syndicaliste à la CGT de l'usine Neuhauser de Fourst, près de Mulhouse, qui fait partie du groupe Invivo. Le groupe Invivo, c'est une union de grosses et très grosses coopératives agricoles, tout ce qu'on aime. La direction de cette entreprise de boulangerie industrielle donc s'acharne sur Christian Porta, c'est peu de le dire, depuis déjà plusieurs années. Elle avait déjà tenté de le licencier illégalement pour harcèlement, harcèlement contre la direction qui serait donc harcelée par un méchant cégétiste. La direction avait à l'époque incité les cadres à témoigner en sens pour justifier une procédure de licenciement. Sauf que, encore heureux, c'est pas toujours aussi simple. L'inspection du travail avait totalement invalidé l'enquête interne, puis le conseil des prud'hommes a carrément ordonné sa réintégration immédiate. Alors, c'est quand même pas de bol pour la direction du groupe, mais elle ne lâche rien. Elle n'a pas dit son dernier mot, puisqu'elle a désormais carrément porté plainte pour harcèlement ce coup-ci. Ce vendredi, Christian Porta apprenait donc qu'il était convoqué demain à la gendarmerie pour un placement en garde à vue, donc carrément dit qu'il serait placé en gave et mis à pied provisoirement dans son entreprise. Alors voilà ce que déclare la CGT Invivo dans un communiqué. Je cite, alors que tout démontre que nous sommes face à un patronat délinquant qui rêve d'un monde du travail sans syndicat, sans grève et sans inspection du travail, nous avons appris ce vendredi que notre camarade Christian Porta était convoqué en garde à vue mardi prochain à la gendarmerie de Folchevillers. Pour soutenir Christian Porta, donc, de nombreuses organisations appellent à se rendre demain à 8h30 devant la gendarmerie. Il y a aussi eu une tribune qui est disponible sur le site de Mediapart. Face à la violence patronale, c'est clair, c'est la solidarité qui reste notre arme principale. Vous pouvez d'ailleurs donner à la caisse de grève pour que Christian Porta ne perde pas un sou puisqu'il est mis à pied provisoirement. C'est sur Cotisop, ça s'appelle Solidarité avec les grévistes et le DSCGT, DS pour délégué syndical, donc sur Cotisop. On vous le mettra aussi sur le blog, sur nos différents blogs, pour que vous puissiez aller donner des petits sous.
Et avant de passer au dossier, on écoute tout de suite KLM, rappeuse lyonnaise, avec le titre Qu'on se le dise.
On se le dise, on se console vite. Sans la consomme, j'ai la conscience de vivre. Sors les consonnes pour qu'on ponce le beat. On se console vite, on consomme l'olive jusqu'à l'inconscience. Y'a rien de constant quand les poches sont vides. Personne se contente, bien sûr qu'on se teint. Les poches sont vides, circonstances, ça baigne dans virus. Expulse une zade quand personne circule. Couille dans le circuit, compte les euros. Que tombent les heureux, pas de masse pour Zoro. Un max de PQ, impact sur pécule. La France s'essuie quand ça part en serait dessus. CHU en crise, mais y'a plus de sous. Justice en sursis, faut pas compter dessus. Faudra pas compter, être contestationnaire. C'est chacun pour soi jusqu'au bout de l'enfer. La peur en con, complot rationnel. C'est la démocratie du roi soleil. Les éléphants sentent la porcelaine. AstraZeneca pour les pensionnaires. On peut pas sortir. Prépare le stock dans la garçonnière. Qu'on se se le dise, on se console vite. Sans la consomme, j'ai la conscience de vivre. Sors les consonnes pour qu'on ponce le beat. On se console vite, on consume l'olive jusqu'à l'inconscience. Y'a rien de constant quand les poches sont vides. Personne se contente, bien sûr qu'on se tend. Les poches sont vides. 1, 2, 3 confinements. À 20h, applaudissements. 118 millions de tests PCR. 1, 2, hop, télétravail. 400 000 employés sur la paille. Un petit couvre-feu nous fera sortir de la galère. 1, 2, 3 injections. 1 million de contraventions. 750 euros si t'as pas le pass sanitaire. 1, 2, tout de lit en réa. Ni 2, public au théâtre. Loi liberticide dans un but communautaire. Mets ton masque, enlève ton masque, remets ton masque, y'a pas de mascarade, renonce au mascara, c'est pas le carnaval. Avale ton masque, dénonce tes camarades. La mode en manif, c'est le masque à gaz. Tu vois plus tes amis car ils sont qu'à contact. Ambiance au max, t'es anti ou provax. Les politiques, on dirait qu'ils visent le fiasco. Fiasco, 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 fiasco. Pas de taxes pour Amazon. Harris à Tabasco, basta, triste est le constat. Le peuple est en castagne et peine sur le plasma. Fuite pour le cache-cache, de stress en cascade. Fils dans la carcasse, juste pour seul casse-dalle. Crise imminente dans le bocal. Trouve le bonheur dans un TikTok. Les familles enfermées sont au bord du carnage. Discours politique ou bien sitcom. Milliards sauvés grâce au bitcoin. La chaleur humaine ressentie dans un flashback. Ce mec retrouvé au bout d'une corde. Allez, dragons à travers nos webcams. Le monde est sous l'emprise d'un putain de microbe. Qu'on se le dise, on se console vite. Sans la consomme, j'ai la conscience de vivre. Sors les consonnes pour qu'on ponce le beat. On se console vite, on consomme l'olive jusqu'à l'inconscience. Y'a rien de constant quand les poches sont vides. Personne se contente, bien sûr qu'on se tend. Les poches sont vides.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 3 juin et on passe tout de suite à notre rubrique
local.
Local mais pas que, on a ici ce soir 4 invités pour une petite interview sur la mobilisation contre les PFAS. Donc on a avec nous Lucie et Claudie du collectif PFAS contre Terre, Charles pour l'Alliance écologique et sociale et Bernard de l'Union syndicale solidaire. Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Lucie et Claudie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le collectif PFAS contre Terre et du coup bah, qu'est-ce que c'est finalement les PFAS?
Oui, donc les PFAS, ils ont plusieurs noms, on les appelle aussi les perfluorés ou les polluants éternels. Et éternels pourquoi? Parce qu'en fait c'est des substances chimiques qui, une fois qu'ils ont contaminé quelque chose, un milieu naturel ou un corps humain, eh ben, ils vont rester de façon éternelle ou en tout cas très durable. Et disons que sur le plan chimique, pour faire un petit peu d'explication, ils sont constitués d'une liaison entre un carbone et un fluor. Et ça, c'est la molécule chimique la plus résistante qui soit en chimie. Donc, les industriels l'utilisent pour tout un tas d'applications, parce que ça résiste à la chaleur, ça résiste à l'eau, ça résiste au temps. Donc, en fait, concrètement, c'est dans plein de produits d'usage quotidien, comme les poêles antiadhésives dont on parle beaucoup, mais également tout un tas d'emballages alimentaires dans les barquettes de frites par exemple, le maquillage, les vêtements en particulier imperméables, des médicaments, dans l'informatique, dans les batteries, dans des matériaux médicaux comme des prothèses, des pacemakers. Donc on sait que d'une façon générale, toute l'Europe entière est contaminée par les PFAS, que tous les Français sont contaminés par les PFAS à des taux différents. Et ce qui se passe pour nous à Oulin-Pierre-Bénite, c'est qu'on a la malchance d'être à côté d'un des 5 sites où sont fabriqués des PFAS en France. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle un hotspot, un endroit où la pollution, elle est particulièrement intense. Et ça a été révélé par une émission journalistique qui s'appelle Vert de Rage il y a 2 ans. Donc disons que depuis 2 ans, c'est a commencé ce scandale de la pollution au PFAS dans le sud de Lyon.
D'accord, et donc tu fais partie d'un collectif qui s'appelle PFAS contre Terre, qui est un collectif d'habitants d'Oulin Pierre Bénite, il me semble. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment il s'est créé et quelles sont ses revendications et comment il s'organise ?
Donc, le collectif PFAS contre Terre est un collectif, c'est probablement un des plus jeunes. Il est né à la fin 2023 et il a vraiment eu une existence un peu officielle en février 2024. Quand le scandale a explosé avec l'émission Vert de Rage en mai 2022, on est tous tombés des nues, tombés de nos chaises. Ça a été, on vit là depuis des années. On sait qu'on est dans la vallée de la chimie. Avant, ça s'appelait le couloir de la chimie. Mais on n'a jamais vraiment su ce que fabriquaient Arkema et Atokem avant. Et là, l'émission Vert de Rage, c'est vrai qu'elle est venue mettre vraiment un coup à la population. Donc, les luttes se sont plus ou moins organisées à partir d'associations existantes. Et aussi, il y a des nouveaux collectifs qui se sont montés, comme Osons l'Océan, sur le sud de Lyon. Sachant qu'à Pierre Bénite et Oulin, nous, on est essentiellement impactés par la terre et l'air, mais que pour ce qui est de l'eau, c'est plus le sud de Lyon, puisque les nappes phréatiques impactées, c'est celles qui sont en aval des usines. Donc du côté de Ternay. Donc ces collectifs ont tous un peu leur particularité. Il y a des ONG aussi qui ont. Donc il y a eu des tas de réunions, voilà, auxquelles on a participé. Mais du côté d'Oulin Pierre Bénite, on a vraiment souhaité monter un collectif, plus un collectif d'action. C'est-à-dire on voulait mettre en place des actions concrètes pour essayer de faire reculer cette pollution et reculer l'impact des PFAS sur nos vies.
Parce que du coup, comment ça se traduit concrètement l'impact des PFAS sur la vie des habitants d'Oulin, de Pierre Bénite ? On voit déjà les effets de cette pollution ?
Alors en fait, la pollution au perfluoré, elle peut produire tout un tas de problèmes de santé très divers et très variés. Par exemple, des problèmes notamment de thyroïde, des problèmes de maladies de foie comme le cholestérol, des problèmes lors de la grossesse, ça induit des pathologies pour le développement du fœtus. C'est des bébés qui naissent avec des petits poids de naissance. Ils sont également incriminés dans certains cancers, notamment le rein et les cancers du testicule. Voilà pour les quelques effets sur la santé, disons, principaux. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Et il y en a plein qui ne sont pas encore suffisamment documentés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'une famille de milliers de PFAS. Et c'est ça toute la complexité du problème. Et d'ailleurs, les industriels y jouent aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des PFAS qui sont maintenant tout à fait connus et que le Centre international de recherche contre le cancer a classé comme cancérigène ou cancérigène probable. Et puis, il y en a tout un tas d'autres dont on ne connaît pas encore la toxicité. Et c'est un peu le jeu des industriels, c'est de tester des nouvelles molécules dont on ne connaît pas encore la toxicité. Et concrètement, pour nous, en fait, les riverains de Pierre Bénite Oulin, donc nous, c'est pas notre eau potable qui est polluée, comme l'a précisé Claudie. C'est les gens qui ont leur eau potable polluée, c'est aussi quelque chose de dramatique. Mais nous, à Oulin Pierre Bénite, ce qui est pollué, c'est le sol et l'air. Donc concrètement, c'est les œufs des poules. Dont il y a une recommandation très large de ne pas consommer les œufs des poulaillers dans de nombreuses communes autour, des usines Arkema et Daikin. Et c'est les fruits et légumes de nos potagers. Et également quelque chose dont on parle peu, mais qui est quand même très inquiétant, c'est le lait maternel qui est contaminé. Et ça reste assez peu documenté. Et voilà, pour une femme qui allaite, c'est quand même une source d'inquiétude, d'autant qu'un nourrisson avec son tout petit poids corporel, il se prend une dose de PFAS assez significative.
Alors là, on a parlé un peu des habitants et des habitantes, mais du coup, il y a aussi des travailleurs dans cette usine à Pierre Bénite Arkema. Donc là, la question va plutôt s'adresser à Bernard de Solidaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des risques qu'ils prennent et comment sont encadrés un peu tous ces trucs de maladies professionnelles éventuelles ?
Oui, donc.
Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Oui, oui. Donc, évidemment qu'on est en soutien de toutes les luttes des habitants, des riverains du sud de Lyon et ailleurs, mais effectivement, il y a des salariés à Arkema, un nombre important. Il y a aussi beaucoup de sous-traitants qui, soit régulièrement, soit aux périodes d'entretien, il y a jusqu'à 1000 entreprises de sous-traitance qui interviennent dans Arkema. Et ceux-là, ils sont encore plus invisibles quelque part que les salariés d'Arkema. Alors, ce que l'on sait en tout cas sur ces produits chimiques, ces polluants éternels, c'est que ça a des conséquences importantes en matière de cancer, on l'a déjà vu, et on sait qu'il y a plusieurs cancers déclarés, y compris avec des décès, notamment dans les boîtes de sous-traitance. Il y a tout un travail actuellement qui est fait par les différents syndicats pour documenter un peu tout ça. Et ça, c'est une lutte qui dépasse très largement, effectivement, Arkema et les luttes locales, puisque quand on fait un point au niveau européen, il y aurait 1,3 million de cancers tous les ans. Et on sait, des chiffres de l'Organisation internationale du travail, que 100 000 cancers par an en Europe sont attribués à l'exposition professionnelle. Alors, on parle de cancer, mais effectivement, il n'y a pas que le cancer, que les cancers. Il y a les perturbateurs endocriniens qui vont intervenir sur, enfin, qui vont avoir des conséquences sur la totalité des organes quelque part. Et puis, il y a des effets ou des produits qui sont des produits allergisants qui vont encore amplifier les choses. Et faut bien avoir en tête aussi que les ouvriers d'Arkema et de toutes les boîtes de chimie, hein, y a d'autres boîtes de chimie sur Lyon, Arkema, c'est eux qui produisent, mais ils vont disséminer leurs produits effectivement dans beaucoup d'entreprises de chimie notamment, ce qui va avoir des conséquences en matière de santé importante. Nous, ce qu'on pense sur cette lutte actuelle, c'est que c'est les mêmes logiques qui sont à l'œuvre pour les pouvoirs publics et pour le patronat, les logiques qu'il y a eu au moment de l'amiante. Au moment des l'amiante, au moins depuis un siècle, les morts de l'amiante étaient décomptées, il n'y avait pas de doute, et pourtant les employeurs parlaient d'usage raisonné. Il y avait eu la création d'un comité permanent amiante avec les syndicats, les médecins, les inspecteurs du travail, l'État, les entrepreneurs de l'amiante. Et tout ça avait pour but et pour conséquence de rester au statu quo, de prétendre qu'il faut des usages raisonnés, que on affolerait les populations, etc. Et tout ce qui est évidemment pas le cas ou peu le cas. Voilà, peut-être. Donc, nous, la posture qu'on a, c'est effectivement de travailler en interne des boîtes, mais aussi à l'extérieur. Les PFAS, je voudrais souligner par exemple que les produits de nettoyage, on est en train de travailler sur ces questions, comportent un nombre de produits extrêmement importants qui sont des produits cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens, et que ça, c'est... Alors, pour chaque consommateur, c'est problématique, mais pour les salariés, notamment les salariés, les femmes, c'est des cancers qui sont... plusieurs cancers sont forcément tout à fait liés à l'utilisation de ces produits de ménage, de désinfectants, les fongicides, etc. et tout. Et pour celui ou celle, et surtout celle, en l'occurrence, pour les produits de nettoyage, qui utilisent ces produits de manière permanente dans une journée, les conséquences sont absolument invisibles, mais extrêmement importantes. Quoi.
Ouais, c'est plus concentré quand on passe 7 heures par jour à utiliser ces produits que quand on l'utilise une fois tous les semaines chez soi pour faire le ménage.
Évidemment, et puis par exemple pour les personnes qui font des prestations à domicile, chez les personnes âgées, etc. En plus, c'est pas très facile d'amener ces produits parce que il y a des pressions des personnes pour utiliser leurs produits, etc. Et tout, et ils sont plus efficaces, les produits de nettoyage, pour le nettoyage. Ils y sont aussi, hélas, en tout cas sur les corps.
Est-ce que il y a une ou plusieurs actions syndicales, alors qui viendraient de l'intérieur ou de l'extérieur, en cours, ou éventuellement des actions en justice qui sont prévues, organisées ou pas?
Alors, il y a plusieurs actions syndicales à l'intérieur des entreprises. Il y a un travail de fait aujourd'hui. On est plusieurs syndicats quand même à être sur ce terrain-là, d'informer les salariés, parce que face au discours patronal qui est un déni important, hein, c'est le déni, le mensonge, etc. Il y a effectivement pour conséquence de difficultés effectivement de mobilisation. L'information. On est en train d'essayer de recréer des collectifs entre les salariés des entreprises et les sous-traitants, parce que c'est souvent difficile de travailler ensemble. On essaye d'avoir des contacts ou d'intervenir auprès de la médecine du travail, auprès de l'inspection du travail et autres, mais tout ça c'est un travail de longue haleine. Et ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'une étude devrait se faire à l'intérieur de l'usine Arkema pour les salariés, une étude avec des prises de sang régulières et avec des demandes de savoir où on en est. Donc il ne s'agit pas d'études épidémiologiques qui nous enverraient dans des études qui vont sortir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais de faire aujourd'hui au plus pressé dans ce domaine. Et puis il y a toutes les reconnaissances les tentatives de reconnaissance de maladies professionnelles, parce que autant l'amiante c'était relativement facile, enfin entre guillemets, parce que celui ou celle qui prend un mésothéliome de la plèvre, c'est forcément lié à l'amiante. Autant tous ces cancers qui peuvent intervenir, c'est des cancers dont on pense qu'ils sont effectivement professionnels. Mais il y a un système en France qui est un système qui est compliqué. Et bon, il faudrait refaire une autre émission sur le sujet, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué que de faire reconnaître. Alors parfois les accidents du travail, mais les maladies professionnelles, il y a un système de tableaux. C'est extrêmement lourd. Selon les juridictions, c'est pas les mêmes décisions. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les salariés qui sont confrontés à des cancers, souvent des cancers atypiques, hein, ou des cancers par exemple sur d'autres questions, mais c'est les mêmes logiques, la radioactivité. Il y a des salariés qui ont eu des salariés hommes qui ont eu des cancers du sein. Et c'est pas du tout habituel, quoi. Et en fait, ça venait de petits paras de foudre qu'ils mettaient dans leur poche de bleu de travail. D'autres ont pris des cancers de la lèvre, enfin de la bouche, parce qu'ils mettaient ces produits. On leur disait que la radioactivité à faible dose, ça n'avait pas de conséquences. Ben, bien sûr que si. Mais tout ça pour dire que ces luttes qui commencent à se développer, qui la manifestation qui a eu lieu, tout ça permet de mettre sur la place publique ces questions-là, permet aussi pour les salariés de mettre en visibilité, ou en tout cas de travailler à d'autres modes de production et quelque part à une autre société.
Ouais, donc au fur et à mesure d'établir ce lien entre ces polluants éternels et les maladies, parce que c'est difficile pour l'instant à faire reconnaître comme maladie professionnelle. Ok, donc on comprend qu'il faut un peu articuler les luttes à l'intérieur des usines et à l'extérieur. Alors justement, Charles, peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est Alliance écologique et sociale et qu'est-ce qui s'organise contre les PFAS au niveau local, mais aussi peut-être plus au niveau national, voire même européen, et quelles sont les revendications un peu sur ces polluants éternels.
Oui. Donc moi, Charles, je suis membre de Action Justice Climat Lyon et donc également de l'Alliance écologique et sociale. Qu'est-ce que c'est l'Alliance écologique et sociale ? C'est un rassemblement d'organisations écologistes, sociales en général, et d'organisations syndicales qui existent au niveau national depuis plusieurs années et également au niveau du Rhône, de Lyon. D'ailleurs, on a été assez pionniers sur ce sujet et on est toujours en avant par rapport au niveau national puisque la CGT a beau s'en être retirée au niveau national, ils sont toujours là avec nous ici à Lyon, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est un collectif au sein duquel on fait de l'alliance entre les luttes, ça c'est vraiment notre raison d'être à Action Justice Climat Lyon, et donc qui se traduit dans l'Alliance écologique et sociale, c'est le fait de dire que les luttes des travailleurs, des travailleuses, les luttes écologistes, les luttes sociales en général, en fait, elles se font contre les mêmes logiques de domination, donc elles doivent se faire ensemble, elles doivent réussir à s'articuler. Et donc c'est pour ça, évidemment, qu'on a apporté notre soutien aux collectifs citoyens d'habitants et d'habitantes de d'Oulin-Pierre-Bénite pour organiser des mobilisations. Alors non pas pour aller leur expliquer comment faire, importer nos méthodes et leur donner des ordres, mais pour se mettre au service, pour apporter les moyens qu'on peut avoir, les compétences qu'on peut avoir, que ce soit les organisations syndicales, les écologistes comme nous, et donc tout ça pour faire monter la sauce, organiser les mobilisations ensemble, et puis faire monter le sujet dans les médias, réussir à obtenir des réactions politiques. Donc au niveau local, évidemment, il y en a eu. Alors je sais plus si on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi une pétition qui est en train d'être lancée justement pour pouvoir avancer. Là, il y a des échéances qui arrivent. Il y a les élections européennes qui se rapprochent à grands pas puisque c'est samedi. Alors moi, je vais pas vous dire de voter ou pas et encore moins pour qui voter. Simplement, on se mobilise, y compris avec une organisation comme Génération Future, pour interpeller les listes candidates, pour faire en sorte que ce sujet des PFAS, des polluants éternels, soit inclus dans la campagne, que tout le monde se positionne vis-à-vis de ça, voilà, pour le faire rentrer dans le débat public. S'il y a des députés européens, européennes qui sont au Parlement et qui ensuite se saisissent de ce sujet, c'est bien, ce sera une avancée. Et en tout cas, voilà, tout. À chaque fois qu'il montera dans le débat public et qu'on pourra augmenter le rapport de force, ça sera une bonne nouvelle.
Et vous demandez quoi, du coup, l'interdiction des PFAS
Alors, l'interdiction des PFAS, c'est une évidence. C'est comme l'amiante. Enfin, une fois qu'on sait que la substance est toxique, c'est assez logique. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, on peut pas simplement interdire les PFAS. Alors, on l'a dit déjà. C'est une grosse famille de composants. Enfin. On peut pas dire on interdit ce composé là dans l'usine parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont prendre une autre molécule qui ressemble un tout petit peu et puis refaire la même chose. Non, nous ce qu'on demande c'est de manière générale l'application stricte du principe de précaution. Ce qui se passe jusqu'ici c'est que des industriels trouvent des molécules avec lesquelles ils peuvent faire de l'argent. Tant pis si ça nuit à la santé des gens, ils les mettent sur le marché. Non, ce qu'il faut c'est inverser ce rapport là, c'est que avant de mettre sur le marché une molécule, on voit si elle a un effet nocif sur la santé ou pas. Ensuite, il y a un enjeu à réparer les dommages qui sont déjà faits. Ça, c'est le principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur, il y a deux façons de l'interpréter. Soit c'est un pollueur qui peut continuer à polluer en payant une petite taxe, soit...
Ça n'a pas l'air très bien, ça.
C'est pas une super nouvelle. Soit, au contraire, on dit, ok, t'as pollué, déjà tu arrêtes. Et surtout, le pollueur, maintenant, ce qu'il doit faire, c'est financer l'analyse de l'étendue des dégâts, donc financer des études sur les populations, à la fois les populations proches, sur les salariés et puis même les populations plus éloignées. Et ensuite, une fois que le préjudice il est évalué correctement, et bien il faut le réparer, il faut payer les soins pour réparer ce qui peut l'être dans la santé des gens, il faut dépolluer les sols, et tout ça, il est hors de question que ça soit fait avec l'argent public, avec l'argent des gens, alors qu'à l'origine, ce sont des entreprises qui l'ont fait pour leur profit.
Alors, parlons un peu de la mobilisation. Il y a eu une manifestation récemment. Ouais. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que ce sujet mobilise un peu? Et puis après, on discutera un peu de ce qui va arriver dans les semaines qui viennent.
Donc, il y a eu une mobilisation, effectivement, il y a une dizaine de jours, qui était une chouette mobilisation, déjà parce qu'il a fait beau, et que Coulins et Pierre Bénite est finalement une zone très touristique, il y a des belles fresques murales. Non, mais l'ambiance de la manifestation était assez chouette, justement parce que c'était avant tout une mobilisation des habitants et des habitantes, des gens qui vivent là. Et donc, c'était très différent de ce qu'on peut voir quand on fait, par exemple, le parcours habituel de la manufacture des tabacs à la place Bellecour à Lyon, des choses comme ça. Ouais. Voilà, là, ça, déjà, c'était un peu plus vallonné, donc ça change. Non, mais surtout, c'était pas du tout les mêmes visages. C'était vraiment des personnes qui étaient directement touchées. Donc, évidemment, on n'était pas des dizaines de milliers, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu vraiment des dizaines de milliers de personnes manifester à Lyon. Mais on était vraiment un nombre significatif qui remplissait bien la ville d'Oulin-Pierre-Bénite. Et je pense que ça a vraiment rempli son office. Et surtout, ça montrait que cette convergence, elle se fait bien, qu'on arrive à s'organiser ensemble. Et c'était une belle étape.
Alors, quelles sont les prochaines échéances au niveau de la lutte et de la mobilisation, s'il vous plaît ?
Alors, très concrètement, il va y avoir bientôt... En fait, il faut savoir que non seulement il y a une situation sanitaire qui est dégradée autour d'Oulin-Pierre-Bénite, mais il y a un scandale dans le scandale, parce qu'une des deux usines pollueuses, qui s'appelle Daikin, s'étend et a rajouté récemment une unité de production. Donc là, il va y avoir une bataille qui va se jouer devant les tribunaux, avec un recours contre l'extension de cette usine. Et le collectif PFAS contre Terre lance une pétition pour soutenir cette action en justice. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait du monde pour signer cette pétition. Donc on peut la trouver sur le site de Green Voice et elle s'intitule « Pétition citoyenne contre l'extension de l'usine Daikin à Oulin-Pierre-Bénite ». Donc ça, c'est une chose simple et concrète qu'on peut faire pour soutenir la lutte. Et ensuite, dans les dates qui arrivent, il faut retenir la date du 18 juin, parce qu'il y avait eu une action tout à fait significative et remarquable menée par Extinction Rebellion. Or, il y a 8 militants qui ont été interpellés et qui vont avoir leur procès le 18 juin. Donc, il y a un rassemblement pour les soutenir qui va avoir lieu place Guichard à midi.
D'accord. Donc, c'est au tribunal habituel. Très bien. Est-ce que vous pouvez également nous dire si des gens ont envie de pousser un peu plus loin l'analyse du sujet, est-ce que vous avez des ressources à conseiller ?
En termes de ressources, il y a en tout cas quelque chose de très simple, c'est le film Dark Waters. C'est un film qu'on trouve assez facilement. C'est le scandale qu'il y a eu aux États-Unis. Et on s'aperçoit là que si nous on a découvert les PFAS il y a 2 ans, ça fait 30 ans que ces PFAS existent et qu'il y a des pays qui luttent et des luttes qui ont abouti. Donc ça, on recommande vraiment de le voir. C'est une fiction, hein, c'est pas du tout un documentaire, mais c'est vraiment calqué sur l'histoire du pont aux États-Unis. Ensuite, il y a Vert de rage. Donc cette émission qui a lancé le scandale il y a 2 ans, qui est une émission remarquable, qui est sur la 3, la 2, France TV en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà. Et cette émission est actuellement en replay sur la plateforme. Et cette émission doit disparaître. Elle fait partie des émissions qui doivent être...
supprimé comme supprimer. À France Inter, oui, voilà. Tout ce qui est un peu trop à gauche, écolo, ça dégage quoi.
Voilà, okay. Alors que vraiment cette émission, elle est remarquable. Après, vous avez le documentaire de Camille Etienne aussi, qui est en accès libre sur YouTube et qui explique extrêmement bien, qui a vraiment bien documenté la question des PFAS. Il est sorti un peu plus tard, il est sorti en début d'année, mais c'est vraiment extrêmement bien documenté. Et puis, les documentaires sur France 3 d'Émilie Rousseau, qui, elle, reprend entièrement l'histoire de Daikin et d'Arkema et de la fabrication de ce que fabriquent ces deux usines, avec un historique, comment toute cette chimie s'est construite et tout ça. Et ce sont en tout cas 4 documents. Après, vous avez Le Monde, vous pouvez chercher du côté du Monde avec Stéphane Aurel, qui est une journaliste qui est extrêmement bien documentée sur les PFAS, qui a permis de faire une carte européenne de tous les spots, qui aussi peut effectivement, vraiment, c'est une base documentaire qui est extrêmement importante.
Et en termes de dates très proches pour s'informer et pour soutenir, il y a également donc, le documentaire Dark Waters qui passe à l'Aquarium Ciné Café mercredi soir et jeudi soir à l'Alternative Bar, donc le bar associatif d'Action Justice Climat Lyon, 126 Montée de la Grande Côte. Il y a une soirée qui s'appelle Rencontre Militante où seront invités des membres d'Extinction Rébellion pour parler de l'action et pour mobiliser en amont de la mobilisation du 18.